RFI, il est 14h10 à Paris, une heure de moins en temps universel, 8h10 à Port-au-Prince. Et puis c'est l'heure de retrouver le journal d'Haïti et des Amériques avec vous, Céline Pellarin, bonjour.
Bonjour Andréane Mellard, bonjour à toutes et à tous. Aux États-Unis, c'est une amitié qui s'est transformée en haine entre le président Donald Trump et son ex-conseiller Steve Bannon. Rien ne va plus. En cause, le livre du second sur les débuts du premier à la Maison-Blanche. Et c'était la une de la presse américaine et de la revue de presse d'Arim Lipold. Bonjour Arim.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Et dans les médias du continent également, le scandale Odebrecht qui fait tomber le vice-président équatorien. Et au Pérou, c'est le ministre de la Défense qui donne sa lettre de démission. Nous retrouverons comme tous les jeudis Franz Duval du Nouvelliste qui nous racontera les difficultés des Haïtiens pour se procurer du carburant en ce début d'année. Enfin, ce dossier de Carlota Morteo dans les universités américaines. Les plus anciennes et les plus prestigieuses font enfin face à leur passé esclavagiste. Et à Georgetown, nous suivrons une étudiante pas comme les autres, vu qu'elle est une descendante de ces esclaves qui appartenaient à l'établissement. C'est à couteau tiré entre Donald Trump et Steve Bannon. C'est en effet la guerre ouverte entre le président américain et son ancien conseiller. Selon un livre à paraître la semaine prochaine, mais dont de larges extraits ont été publiés, Steve Bannon a qualifié le fils de Donald Trump de traître. Un adjectif qui a fait sortir de ses gonds l'hôte de la Maison Blanche. Correspondance à Washington, Dan Corpé.
Le feu et la fureur, c'est le titre parfaitement trouvé de cet ouvrage qui, avant même sa sortie officielle, a suscité la colère noire du président. Dans ce livre bourré de révélations sur les premiers jours de Donald Trump à la présidence, Steve Bannon, ancien conseiller du président, parle de trahison pour qualifier la rencontre entre Donald Trump Jr. et un groupe de Russes en juin 2016. Steve Bannon n'a pas seulement perdu son emploi lorsqu'il a été viré de la Maison Blanche, il a aussi perdu la tête, a rétorqué le président par communiqué officiel. Interrogé dans la foulée, la porte-parole de la Maison Blanche, Sarah Sanders, a confirmé la colère présidentielle.
Je crois qu'être furieux et dégoûté, c'est ce que l'on est en droit de ressentir quand des déclarations scandaleuses et complètement fausses sont faites contre le président, son administration et sa famille.
Le conflit entre le président et son ancien conseiller risque d'avoir des conséquences politiques. Steve Bannon a déjà annoncé qu'il soutiendrait ses propres candidats contre ceux du Parti républicain lors des prochaines élections de mi-mandat. Anne Corpé, Washington, RFI.
Tous aux abris, la guerre est déclarée entre Donald Trump et Steve Bannon et cela fait bien sûr les gros titres de la presse américaine, Arim Lipold.
Oui, Trump rompt avec Bannon, titre le New York Times. La fin spectaculaire de cette alliance de circonstances entre un président et son éminence grise est inédite dans l'histoire moderne des États-Unis, estime pour sa part le site d'information Politico. Le journal brésilien O Globo parle de divorce consommé entre les deux hommes, un divorce qui devrait, selon ce quotidien, bien réjouir les conservateurs traditionnels au sein du Parti républicain, ceux qui étaient depuis longtemps opposés à la ligne nationale populiste de l'ancien conseiller. D'ailleurs, le journal National Review, proche du Parti républicain, ne cache pas sa satisfaction. La rupture avec Bannon est la meilleure décision que Donald Trump ait prise depuis le début de sa présidence. Rien que ça, écrit David French. Elle permet à présent à d'autres personnes, selon French, plus compétentes, de prendre les commandes au sein de la Maison-Blanche.
Les journaux ne commentent pas seulement les échanges entre Trump et Bannon, mais aussi les anecdotes croustillantes révélées dans le livre de Michael Wolff.
Oui, le New York Magazine, qui publie des extraits de cet ouvrage, a choisi de titrer sur cette histoire rapportée par Wolff. Donald Trump ne voulait pas être président. L'auteur décrit une équipe de campagne surprise par la victoire de son candidat, dont elle mettait en doute la compétence. Le 8 novembre, quand le résultat de l'élection est tombé, Donald Trump ressemblait à quelqu'un qui a vu un fantôme, peut-on lire dans les livres de Michael Wolff, qui sera publié d'ailleurs dans quelques jours. Melania Trump, elle, était en larmes ce soir-là, mais ce n'était pas des larmes de joie, ajoute l'auteur.
Et l'ouvrage s'attarde aussi sur le désarroi dont a fait preuve durant les premiers jours de nouveau président.
Exactement, et les premiers pas de Trump président, il a fallu l'intervention énergique d'une conseillère de campagne, Ann Coulter en l'occurrence, pour expliquer à Donald Trump qu'il ne pouvait pas embaucher ses enfants. On apprend également que le président, à partir de 18h30, s'enfermait souvent seul dans sa chambre à la Maison-Blanche, qu'il passait ses soirées à regarder la télévision sur trois grands écrans et qu'il préférait manger des cheeseburgers à McDonald's par peur d'être empoisonné.
Alors évidemment, Rémi Paul, on est est en droit de se poser la question, est-ce que ces histoires sont vraies ?
Eh bien, c'est exactement la question que se pose le Washington Post. Peut-on croire l'auteur ? Le journal émet quelques doutes et donne un exemple. Selon Michael Wolff, Donald Trump ne savait pas qui était John Boehner, l'ancien speaker de la Chambre des représentants, mais il se trouve que le président l'a mentionné à plusieurs reprises dans ses tweets depuis 2011.
Donald Trump, visiblement partout dans la presse, on y apprend aujourd'hui que le président américain a dissous une commission qu'il avait lui-même réclamée pour enquêter sur des fraudes électorales présumées lors de la dernière présidentielle.
Oui, c'est allié dans le Washington Post, raison officielle invoquée pour l'abandon de cette commission. De nombreux États ont refusé de fournir les informations requises pour vérifier les résultats électoraux. C'est un échec majeur pour le président, commente le Washington Post, selon lequel Donald Trump semble toujours convaincu qu'il y a eu des fraudes lors de l'élection de novembre 2016. D'ailleurs, dans un de ses tweets matinaux de ce jeudi, il appelle à la réforme du système électoral qu'il juge truqué.
À direction de l'Équateur où le vice-président lui a été démis de ses fonctions.
Oui, Jorge Glass est accusé de corruption dans le vaste scandale autour de l'entreprise brésilienne Odebrecht. Il a été placé en détention préventive le 2 octobre et condamné en décembre dernier en première instance à 6 ans de prison ferme. Comme il ne pouvait plus remplir ses fonctions, eh bien, une démission s'imposait conformément à la Constitution.
Et on termine par le Canada où le gouvernement expérimente une intelligence artificielle pour remplacer l'humain dans les tâches administratives.
Oui, c'est une information exclusive du site La Presse. Bientôt, un robot pourrait répondre aux questions des citoyens sur l'Internet. Ces logiciels de conversation s'appellent des chatbots. Ils sont déjà répandus dans le secteur privé, au Canada en tout cas. Ils pourraient aussi faire leur entrée dans l'administration. Un responsable du gouvernement fédéral canadien précise cependant que le développement de cette intelligence artificielle est encore au stade embryonnaire. Ouf.
Et toujours pas de robot pour parcourir la presse du continent. C'est bien vous qui le faites pour nous, Arim Lipold. Et pas de chatbot RFI, mais un site internet et une page Facebook pour réécouter et relire cette revue de presse.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Allez, on part en Haïti retrouver Franz Duval. Bonjour Franz.
Bonjour.
Vous êtes le rédacteur en chef du Nouvelliste et ce que l'on trouve à la une pour 2018 ressemble à 2017. Les Haïtiens sont déjà à la recherche de carburant.
En province, c'est déjà la rareté pour la gasoline et les prix flambent. L'année commence avec deux rumeurs. L'une concerne une pénurie d'essence dans les stations-service. L'autre parle d'une augmentation à la pompe des prix des carburants. La première rumeur alimente la seconde ou la seconde a provoqué la première, on ne sait pas trop. Le constat est l'effervescence pour trouver de la gasoline depuis le 2 janvier. Pour le gazoil et le kérosène, il ne semble pas encore avoir lieu de s'inquiéter.
Et pour le gouvernement, il n'y a donc pas de quoi s'inquiéter.
Il y a largement de carburant pour tenir jusqu'à samedi, a confié au Nouvelliste le ministre de l'Économie et des Finances, Judalix Patrick Salomon, mercredi 3 janvier. Un tanker avec une nouvelle cargaison arrive ce jeudi. L'essence sera disponible vendredi, a-t-il poursuivi, invitant les consommateurs haïtiens à avoir un comportement normal sans velléité de stockage. Il peut y avoir un problème de disponibilité d'une pompe à l'autre, d'une compagnie à une autre, parce qu'elles n'ont pas une égale capacité de stockage et de vente, mais rien de plus, a expliqué le ministre de l'Économie et des Finances. L'État importe et fixe les prix des produits pétroliers en Haïti.
Franz Duval, également à la une du Nouvelliste, il y a cet entretien avec le professeur de médecine qui dément les propos de Donald Trump sur le sida en Haïti.
Évidemment, non, tous les Haïtiens n'ont pas le sida, a indiqué Jean-William Pape, médecin haïtien, combattant de la première heure de la pandémie avant même qu'elle ne s'appelle SIDA. Le docteur Pape, un des 45 experts réunis par ONU SIDA, dont la mission est d'éradiquer le SIDA à travers le monde, a répondu aux questions du Nouvelliste. Selon lui, on fait beaucoup de progrès pour réduire le taux de SIDA au sein de la population haïtienne ces dernières années. Haïti avait des taux de prévalence dans la population qui dépassaient 6,2%. L'enquête la plus récente de 2016-2017 a révélé un taux de 2%. Ce taux est comparable à ce qu'on a à Washington DC, a-t-il expliqué. En fait, si l'on regarde chez les adultes, ce taux est inférieur à ce qu'on a dans la capitale américaine. C'est clair que tous les Haïtiens n'ont pas le sida, a renchéri le Dr Pape dans une interview accordée Nouvelliste. Le médecin n'a pas voulu commenter les déclarations attribuées au président Donald Trump par un récent article du New York Times démenti par les services du président américain, faisant croire que la majorité des Haïtiens qui sont entrés aux États-Unis ces dernières années avaient le sida.
Et la lutte pour éviter la propagation du virus passe par l'utilisation de préservatifs, on le rappelle. Autre sujet d'actualité qui concerne le voisin d'Haïti, la République dominicaine, eh bien, elle veut augmenter ses exportations.
En prélude aux commémorations du Nouvel An, le président dominicain Danilo Medina vient de déclarer 2018 année de la promotion des exportations dans son pays. À cette fin, le président Medina a publié le décret 437-17 visant à stimuler le développement intégral de la République dominicaine via la promotion des exportations pour l'année 2018. Son gouvernement a opté pour l'exportation comme fondement de la croissance économique de la République dominicaine.
Et Franz Duval, les exportations pourraient même tripler de la République dominicaine vers Haïti.
L'an dernier, le ministre dominicain des Affaires étrangères, Miguel Vargas Maldonado, avait déclaré dans les colonnes d'un quotidien dominicain que la République dominicaine allait tripler le volume de ses exportations vers Haïti. En 2016, des données du Bureau national dominicain des statistiques relève qu'Haïti, pour 800 millions de dollars de biens exportés contre 1 milliard en 2015, demeure le deuxième marché d'exportation pour les produits de la République dominicaine.
Et que comptent faire les autorités haïtiennes?
Il n'y a pas encore de réaction officielle des autorités haïtiennes sur les projections d'exportation de la République dominicaine. À la fin du mois de décembre 2017, la police haïtienne a lancé une nouvelle brigade chargée de la surveillance des frontières entre Haïti et son voisin, qui partage avec lui l'île. Le problème dans le commerce entre les deux pays n'est pas le volume des exportations dominicaines vers Haïti, ni même le déséquilibre abyssal dans les échanges entre les deux pays, mais le fait que les biens dominicains rentrent en Haïti sans payer de taxes, par la frontière officielle ou par contrebande.
Franz Duval du Nouvelliste pour votre chronique hebdomadaire sur RFI. On vous retrouve jeudi prochain, Franz. Les universités américaines font enfin face à leur passé esclavagiste. Depuis 2016, les plus prestigieuses, Harvard, Brown, Columbia, Princeton ou Yale, ont pris des mesures symboliques pour reconnaître ce passé trouble. Jusqu'où va la repentance de ces établissements? Comment se manifeste le devoir de mémoire de ces universités? À Georgetown, fameuse université américaine, Carlotta Morteo a rencontré une des élèves qui étudie dans l'établissement et qui avait réduit ses ancêtres en esclavage au début du 19e siècle.
Mon arrière-arrière-arrière-grand-mère, Marie-Hélène Queen, a été vendue par les jésuites de Georgetown avec sa mère et sept de ses frères et sœurs. Même chose pour mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, Robert Mahoney.
Mélisande Short-Colomb est l'une des descendantes des 272 esclaves que possédait la Société de Jésus. Ces jésuites ont fondé en 1789 la première université américaine, Georgetown, grâce aux revenus de leurs 5 plantations de tabac. Mais les jésuites sont de mauvais gestionnaires. 40 ans plus tard, en 1838, pour sauver l'université de la faillite, ils décident de vendre leurs 272 esclaves à 3 plantations de sucre en Louisiane. Mélisande Short-Colomb, cuisinière de 63 ans, a découvert cette histoire il y a un an, quand Georgetown a proposé aux descendants d'esclaves un parrainage pour être plus facilement admis dans cette université d'élite.
Je suis là parce que je pense que c'est une responsabilité vis-à-vis de mes ancêtres et vis-à-vis de la communauté des descendants d'esclaves. Si je n'étais pas là, mes ancêtres resteraient dans l'oubli et sans importance, comme ça a été le cas pendant 180 ans. Je pense que Georgetown a ouvert la porte du dialogue pour qu'on commence à assumer qui nous sommes institutionnellement en tant qu'Américains. Les États-Unis ont été fondés sur le vol des terres amérindiennes et la mise en esclavage des Noirs. Et puis, il n'y a pas que l'université Georgetown, il y a aussi Harvard, les banques, les assurances, les compagnies maritimes, les hôpitaux, c'est l'Amérique.
Mélisande Short-Colomb n'aurait jamais été retrouvée sans l'acharnement de Richard Cellini, ancien étudiant de Georgetown, aujourd'hui chef d'entreprise.
En 2015, il y a eu des manifestations étudiantes à Georgetown qui condamnaient le fait que deux des plus anciens et des plus beaux bâtiments du campus portaient le nom des deux prêtres jésuites responsables de la vente de ces esclaves. J'ai pris contact avec le groupe de travail que l'université avait désigné pour étudier cette question. Est-ce que l'université devait rebaptiser les bâtiments au nom des esclaves? Est-ce qu'il fallait mettre une plaque commémorative? Moi, ce qui m'intéressait, c'est ce qui était arrivé aux gens La réponse d'un des membres du groupe de travail était « Ils sont tous immédiatement morts de fièvre en arrivant en Louisiane. Ils n'ont laissé aucune trace et aucun descendant. »
Richard Cellini ne peut y croire. Il fonde donc, indépendamment de l'université, le Georgetown Memory Project. Grâce à des dons privés, l'association embauche des généalogistes qui réussissent à identifier 5446 descendants. Parmi eux, 900 vivent aujourd'hui dans une petite commune de 1200 habitants en Louisiane, Méringouin, située à moins d'un kilomètre de l'une des plantations à qui Georgetown avait vendu ses esclaves en 1838. Méringouin, commune très noire, très pauvre, où il n'y a ni collège ni lycée.
Les descendants ont demandé à l'université de créer une fondation caritative pour promouvoir la réconciliation raciale et faire progresser l'éducation des Afro-Américains aux États-Unis. Ils ne l'ont pas obtenu. Ce que fait Georgetown, c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan. Ni l'université, ni la Société de Jésus n'ont mis un sou pour le travail de recherche des descendants. Leur offrir un simple parrainage lors de l'admission, ça ne rime à rien. Et on ne leur garantit même pas qu'ils toucheront une bourse ou une aide financière.
Aujourd'hui, la plupart des plus prestigieuses universités américaines ont fait des efforts, sinon financiers, au moins symboliques, pour reconnaître leur passé esclavagiste, ce péché originel de l'histoire des États-Unis dont elles ont été les complices.
Les universités américaines face à leur passé esclavagiste, c'était un dossier signé Carlotta Morteo. Le journal de la première, c'est avec Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Céline.
Le risque allergique associé au pollen et aux moisissures serait-il plus important aux Antilles que dans le reste de la France ?
Saisi par les ministères de l'écologie et de la santé, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, vient en tout cas de dresser un premier constat plutôt inquiétant. Explication, la première Guadeloupe, Franck Aristide.
18% des enfants chez nous contre 16 dans l'Hexagone en ce qui concerne la rhinopharyngite, 12% en ce qui concerne l'asthme chez les adolescents des Antilles contre 8% dans l'Hexagone avec en plus des hospitalisations bien plus fréquentes. Les adultes de plus de 45 ans ont même entre 2 et 4 fois plus de risques d'en mourir chez nous que sur le territoire national. Si le lien entre la prévalence de ces pathologies et l'exposition au pollen ou aux moisissures dans nos îles n'est pas clairement établi faute d'études épidémiologiques dignes de ce nom. Celles menées ailleurs en zones tropicales semblables, Trinidad, Porto Rico, le Mexique, ont elles clairement établi ce rapport de cause à effet. Du coup, l'ANSAS s'inquiète de l'absence d'informations sur nos territoires, de l'absence de mesures de prévention pour limiter la présence d'espèces végétales au pollen préoccupant. Elle recommande donc la mise en place d'un dispositif précis de mesure de ces pollens et des moisissures dans l'air, une amélioration de la connaissance de l'état de santé des Antilles, ainsi que l'installation d'un réseau de médecins sentinelles. Reste juste à savoir quand sera menée une véritable analyse de santé publique en la matière.
Santé, suite avec cette action symbolique hier matin des personnels du CHU de Fort-de-France en Martinique, à l'heure où les 3 administrateurs provisoires de l'établissement entraient officiellement en fonction. Une 50aine d'agents rassemblés dans le hall de l'hôpital pour souhaiter la bienvenue, entre guillemets bien sûr, aux 3 inspecteurs des affaires sociales qui vont désormais gérer le CHU. Écoutez une salariée de l'hôpital au micro de Claude Gracien.
On attend beaucoup de ministères, parce qu'on s'est rendu compte que, au niveau du travail, on est en difficulté. On voit qu'au niveau du matériel, par exemple, quand on fait une commande, ça n'arrive pas. Et on relance. Et on attend, on est toujours en attente. On essaie de se serrer les coudes, de faire avec les moyens de bord. Mais ce n'est pas normal que c'est au dépens des patients. Et on aurait souhaité vivement que le ministère nous entende, pour apporter une amélioration à notre outil de travail pour que les patients n'en pâtissent pas. On ne se décourage pas, mais on est toujours en attente. On attend, on se dit, bon, peut-être qu'il y aura mieux. Et puis, ma foi, on ne voit pas venir, mais on n'abandonne pas notre poste, on fait avec ce qu'on a.
Fin de cette édition. Bon après-midi Céline, à demain.
Merci Benoît Ferrand et bonne journée à vous aussi. Il est 8h29 à Port-au-Prince et à Montréal, le journal d'Haïti et des Amériques. C'est terminé pour aujourd'hui, c'était Jonathan Brady à la réalisation. On se retrouve demain à la même heure et puis d'ici là il y a évidemment le site internet pour retrouver les informations développées dans cette édition. Il y a également la page Facebook, n'hésitez pas à y faire un tour. Passez une excellente journée à l'écoute de la Radio du Monde.
Découvrez musique.rfi.fr. Retrouvez toutes les infos, la biographie, les vidéos et les émissions de RFI consacrées à Swann Massy. Sur musique.rfi.fr, vibrez en temps universel.